Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur l'émission Les Neveux de René, Chemin de Pensée. Vous êtes en compagnie de Nazim Fattès, de Sylvain Contasso-Vivier. Et nous avons aujourd'hui un nouvel invité avec François Baudin, qui est historien, mais aussi grand amateur de philosophie. Alors je vous rappelle que le principe de l'émission, c'est de cheminer, de découvrir la philosophie à travers une certaine lecture des textes. Et nous avions commencé par lire l'Apologie de Socrate et que nous sommes maintenant en train de lire le discours de la méthode de Descartes. Et après avoir vu comment commencer ce discours de la méthode, en lisant les premières et deuxièmes parties du livre, nous allons maintenant faire un petit saut dans le livre et nous allons sauter la partie 3 dans laquelle Descartes présente sa morale par provision pour attaquer directement le cœur du discours de la méthode et en venir à ce fameux passage connu parmi tous où il est question de cette phrase « Je pense, donc je suis ». Alors on va essayer de la resituer dans son contexte, cette phrase, essayer à nous qui ne sommes pas des professionnels de la philosophie de voir quel sens nous pouvons lui attribuer. Beaucoup de gens s'interrogent sur le sens de cette phrase parce qu'elle a l'air simple. On peut facilement la railler en disant « Ouh là là, Descartes s'est pas bien cassé la tête pour trouver ça ». Mais elle vient évidemment dans toute une construction dont on a commencé à montrer les fondations. Et on va essayer de lui donner toute sa force, toute la force que cette phrase a. Alors avant de commencer la discussion avec François Baudin et Sylvain Contasso-Vivier, peut-être François Baudin, vous pouvez vous présenter brièvement et dire quel a été votre parcours, votre intérêt pour la philosophie ?
Alors mon intérêt pour la philosophie date depuis très longtemps, depuis même mon adolescence, ne m'a jamais quitté, pour l'histoire également. Mais c'est histoire que j'ai choisie, mais par contre sans jamais quitter la philosophie. C'est-à-dire la philosophie, c'est la lecture des philosophes, depuis les Grecs et même les présocratiques jusqu'à la philosophie d'aujourd'hui. Alain Badiou ou les contemporains comme Deleuze, comme Derrida, bon voilà. Donc c'est, et j'ai lu la plupart des grands textes et plusieurs fois pour essayer de les comprendre, voilà, de rentrer dans leur pensée, on va dire. Voilà, et voir l'influence que ça pouvait avoir sur nous. J'ai écrit aussi plusieurs livres de philosophie. J'ai écrit 4 livres de philosophie, donc les 3 premiers tournant autour du thème de la vérité, philosophie et vérité, discours et vérité, deuxième livre, troisième livre, être et vérité. Le premier porte surtout sur la philosophie, qu'est-ce que la philosophie ? Essayer de répondre à cette question. Le deuxième porte sur le discours. J'appelle discours un peu tout ce qui concerne la représentation, d'une certaine façon, que ce soit l'art, la médecine, des mathématiques, les sciences. Troisième, c'est l'être, donc c'est plutôt un texte ontologique, sur l'ontologie. Qu'est-ce que l'être ? Essayer de répondre à cette question, qu'est-ce que l'être ? Et là, je viens de publier un livre sur l'instant, qui s'intitule « Métaphysique de l'instant », donc l'importance de l'instant, en essayant de, disons, de réfléchir à la nature de l'instant. Qu'est-ce que l'instant ? Qu'est-ce que l'interaction, l'échange ? C'est aussi bien de la métaphysique que de la physique aussi. Voilà, et je fais 3 livres, j'écris 3 livres actuellement, de front à peu près, un qui s'appelle éthique, un qui s'appelle esthétique, et un qui s'appelle politique. Voilà.
Bon, bah merci, c'est tout un programme, donc ouais. J'espère que vous, j'imagine que vous allez avoir beaucoup de choses à dire, puisque là...
Bah, sur ce thème, je pense donc que je suis, j'aurai quelque chose à dire.
Bien sûr. Ouais. Une chose qu'il faut expliquer, donc peut-être aux auditeurs, on va essayer de voir en quoi, précisément, ce texte du discours de la méthode est éminemment métaphysique. Parce qu'on, qu'est-ce qu'on entend par ça ? Métaphysique est un terme qui fait peur. Hein. Si vous voulez éloigner de vous les gens dans un dîner mondain, dans une réunion mondaine, je pense qu'il faut dire qu'on étudie la métaphysique ou quelque chose comme ça. C'est pas avec ce genre de choses qu'on peut susciter l'intérêt, parce qu'on se dit, oulala, tout de suite, dès qu'on entend le mot métaphysique, c'est de quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors plutôt que d'essayer de définir la métaphysique en tant que telle, laissons les textes parler lisons le texte de Descartes. Alors si les auditeurs veulent bien... se saisir, si c'est dans leur possibilité, de leur discours de la méthode et de l'ouvrir à la quatrième partie, ils y verront donc peut-être le cœur de cette partie et la partie la plus métaphysique qui soit. Alors, on va écouter Sylvain pour le début de cette quatrième partie du discours de la méthode.
Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j'y ai faites, car elles sont si métaphysiques et si peu communes qu'elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Et toutefois, afin qu'on puisse juger si les fondements que j'ai pris sont assez fermes, je me trouve en quelque façon contraint d'en parler. J'avais dès longtemps remarqué que, pour les mœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait être fort incertaines. Tout de même que si elles étaient indubitables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Mais pour ce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je fisse tout le contraire, et que je rejetasse, comme absolument faux, tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable.
Alors voilà, là, la façon de procéder de Descartes apparaît dans toute sa splendeur, on va dire. On voit apparaître le terme de recherche de la vérité, bon, qui est l'objet même de la philosophie. Et Descartes nous dit ce que je peux considérer comme vrai, c'est ce qui résiste à l'assaut du doute. Alors je sais pas, vous avez peut-être des commentaires sur cette partie-là.
Globalement, effectivement, ce que nous dit René Descartes là, c'est que toutes les connaissances qu'il a eues avant, quelque part, il va essayer dans l'ensemble de ses connaissances de voir quelles sont les choses qui résistent au doute et quelles sont les choses dont il peut être vraiment sûr de la vérité en fait.
Alors ce qui est intéressant, c'est que le but de cette opération, c'est les fondements. Donc il le dit, il veut, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, il veut pas la bâtir sur du sable. Donc il se dit sur quel est le fond le plus stable, le plus ferme, hein, c'est le mot qu'il emploie, sur lequel je puisse bâtir. François Bonnard voulait intervenir sur ce point-là.
Oui, parce que donc il part, admettons, du doute. Alors du doute déjà des différentes choses qu'on lui a apprises, qu'on lui a dites. Donc moi ce que je nomme discours d'une certaine façon. Donc c'est douter déjà des choses qu'on dit, des opinions là. Alors ça c'est très ancien dans la philosophie, douter des opinions. Donc c'est ce doute. Mais le doute va encore plus profondément parce que il va à ce moment-là jusqu'aux choses elles-mêmes, jusqu'à la réalité. Ça s'appelle la réalité. Encore à ce moment-là. Donc le doute des choses, de la réalité. Et Descartes, et si on doute de la réalité, si on pense que la réalité n'est pas, par exemple, à ce moment-là, même les opinions qu'on a sur cette réalité ou les représentations, on en doute encore plus. Donc cette assise, il doit la trouver dans les choses, d'une certaine façon. Et parmi les choses, c'est quand même lui-même, en premier. Enfin, je sais pas, j'imagine ça comme ça.
Alors ce que vous appelez assise, on va voir, hein, on a dit fondement. Il y a un mot qui sûrement va apparaître au cours de la lecture, c'est le mot de substance. Hein, c'est ça. Donc substance, on entend sub, on entend stance, se tenir, c'est ce qui se tient en dessous. Donc substance, c'est ce qui se tient en dessous de moi, ce qui assure presque ma subsistance à moi. Alors substance, c'est un mot latin qui traduit le grec hypokaimenon, hein, ça c'est très intéressant. Mais on voit là l'objet de la philosophie, c'est-à-dire on est en plein dans la philosophie, on a quitté cette image de la philosophie comme quête de la sagesse, comme si c'était quelque chose d'un peu flou, on voit toute la radicalité que cette quête de vérité, quête de la sagesse, sur quel terrain elle nous porte. Et il y a quelque chose de commotionnant, hein. Il y a quelque chose qui nous fait vaciller si on y pense dans toute son ampleur. Alors peut-être est-ce qu'on peut continuer la lecture de ce début de la quatrième partie.
Ainsi, à cause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus supposer qu'il n'y avait aucune chose qui fût telle qu'ils nous la font imaginer. Et pour ce qu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie, et y font des paralogismes, jugeant que j'étais sujet à faillir autant qu'un autre, je rejetais comme fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstration. Et enfin, considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent aussi venir quand nous dormons, sans qu'il n'y en ait aucune pour lors qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées dans l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes.
Alors là aussi, on voit un thème poindre, hein, le thème de la différence entre la veille et le songe. Donc, au fond, Descartes nous dit, quand je dors et que je vois quelque chose de menaçant, un grand monstre qui me court après, je cours de toutes mes forces, alors que le monstre, bien sûr, n'existe pas. Mais je suis tellement pris par la présence de cette chose menaçante ou parfois bénéfique que je vois dans mes rêves, que à ce moment-là, je n'ai aucun moyen de douter. Qu'est-ce qui me dit, au fond, que le jour, tout ce qu'on vit n'est pas du même ressort? Voilà. Ce sera longtemps, enfin, ce sera longuement commenté par la suite. Cette chose-là, hein, je pense. Mais c'est peut-être une expérience à laquelle on peut inviter nos éditeurs à laquelle à participer. Au fond, c'est que la philosophie, on peut pas la prendre dans son quotidien. C'est-à-dire quand je suis dans mon train, dans ma vie, dans mon boulot, c'est difficile de se mettre dans cet état d'esprit de la philosophie. En revanche, à un moment donné, on peut méditer, dans certaines conditions, et faire ce même exercice qu'a fait Descartes, et ça je trouve que c'est intéressant, de se dire, au fond, qu'est-ce qui m'assure que je ne suis pas maintenant en train de rêver ?
Oui, tout à fait, ce thème a été repris d'ailleurs, effectivement, en maintes reprises, et notamment aussi par des auteurs de science-fiction ou de choses comme ça, hein, sur l'illusion en fait de la réalité, tout simplement.
Clairement. Alors, je sais pas si t'as des films. Moi, je me rappelle
Matrix,
quand
on... ouais,
Matrix,
ça, forcément.
Tous les films avec Terminator. C'est marrant parce que effectivement, tous les films des super productions américaines ont beaucoup joué là-dessus. Ouais, et puis l'histoire des gens à qui on implante des faux souvenirs, et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose de très science-fiction finalement dans ce que nous sommes en train de lire, Discours de la méthode. Voilà, vous voulez dire quelque chose ou on continue ?
Non, on continue.
Alors, on continue la lecture.
Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais aussi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité « je pense donc je suis » était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'était pas capable de l'ébranler. Je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais.
Voilà. Bon, alors là, on est arrivé donc à son premier principe de la philosophie. Alors, faut pas oublier que Descartes a un ouvrage qui s'appelle « Les principes de la philosophie ». Donc, « principe » est un mot important, ça veut dire « quand je considère la vérité d'une chose, d'où est-ce que je pars ?» C'est un petit peu l'équivalent, on va dire, des axiomes en mathématiques. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Je pense donc je suis. Est-ce que vous, qui êtes autour de la table, vous êtes convaincu que c'est un premier principe digne de crédit ? Est-ce que pourquoi a-t-il fallu si longtemps, finalement, dans l'histoire de la philosophie, pour arriver à quelque chose qui nous paraît si évident, à savoir, effectivement, au moment où je pense que quelque chose, je ne peux pas penser que je ne suis pas, puisque je pense, nécessairement, c'est ça. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour découvrir une telle chose ?
Oui, enfin, si je peux me permettre.
Oui, oui.
Mais déjà, l'acte de penser lui-même est déjà travaillé auparavant, c'est-à-dire, et par la pensée, donc être... disons, en capacité d'atteindre une vérité. Ça, c'est dans l'idée même de la philosophie telle qu'elle est dans la tradition, au moins en Occident. Donc ça, c'est... Et donc, on le trouve dans Descartes, en fait, hein, et dans Socrate, dans les dialogues, hein, par la pensée. Donc c'est l'importance de la pensée qui nous permet d'atteindre la vérité, et également la vérité des choses, la vérité de soi, la vérité... Voilà. Donc le fait de penser a été c'est par rapport à ce que vous disiez que c'était qu'on avait mis du temps à découvrir, mais déjà c'était en prémisse, disons, dans toute l'histoire de la philosophie, c'est ce que je voulais dire. Mais cette idée, je pense donc je suis, a été fondatrice quand même de la philosophie moderne et contemporaine.
Oui, elle est vraiment importante, hein, puisque justement dans la démarche de René Descartes qui essaye de construire des connaissances sur des bases solides, il part vraiment de connaissances, enfin, il essaie de construire à partir de choses dont il est sûr et certain. Cette assertion-là, enfin, ou plutôt cette conclusion-là, lui montre que c'est possible. Il existe au moins une chose dont on peut être sûr.
Alors, je voudrais simplement vous poser une question. Imaginons que Descartes ait écrit « Je sens, donc je suis ». Il ne se serait pas plus trompé, au fond. Parce que au moment où je sens quelque chose, je suis tout autant que je pense. Je vois pas pourquoi il donne le primat à ce « je pense ». Lorsque je sens quelque chose, je peux être trompé par mes sens. Mmh. Et évidemment, il dit par exemple « Je peux avoir mal à un bras ». Alors que ce bras-là, on me l'a amputé, je n'ai plus ce bras. Je peux sentir la douleur dans ce bras que je n'ai plus. Mais au moment où je sens la douleur, il n'y a aucun doute que je suis, qu'elle soit vraie ou fausse, la douleur. Pourquoi donner la primauté à la pensée? Ça, c'est quelque chose que moi, je ne saisis pas, je ne comprends pas. Alors comment vous, peut-être, vous comprenez la démarche de Descartes? Pourquoi ce serait plus assuré de dire « je pense, donc je suis », par exemple, que de dire « je sens, donc je suis » ?
Alors, en première idée, je dirais que c'est justement parce qu'il y a quelque chose d'un peu réflexif là, c'est-à-dire que au moment où il réfléchit à ce problème-là, d'arriver à une certitude élémentaire, si on peut dire, c'est l'action qu'il est en train de faire, c'est l'action de penser qu'il est en train de faire, c'est pas autre chose. Mmh. À la limite, sentir, ça, c'est pareil pour lui, sentir, ça peut être faux, quoi, ça peut être une illusion, parce que encore une fois, quand on rêve, on peut avoir l'illusion de la sensation. Donc par rapport à cette illusion.
Je suis pas d'accord avec toi. Tu n'as pas l'illusion de la sensation. Tu as une sensation quand tu rêves. C'est-à-dire si t'as peur, t'as peur. Si t'as froid, t'as froid. Si t'es en train de tomber dans ton rêve, tu as la sensation que t'es en train de tomber. Tu n'es pas en train de tomber, mais cette sensation, tu l'as.
Oui.
Et donc je ne vois pas en quoi elle serait moins ferme ou moins assurée que cette démarche de je pense de penser.
Justement, quelque part, tu viens d'y répondre parce que tu dis. J'ai la sensation quand je rêve, alors que finalement je ne tombe pas. J'ai la sensation de tomber alors que je ne tombe pas, donc on peut pas être sûr de ça.
Certes, mais le fait que j'ai la sensation, ça j'en suis sûr.
Oui, mais vous avez... Parce qu'il y a aussi la question de la conscience. Hein. Donc, même dans Descartes, c'est-à-dire, donc j'ai conscience de la sensation, j'ai conscience que je pense. Hein, donc, et c'est cette, pour moi, c'est cette conscience qui assure du fait de l'existence pour l'homme. Donc voilà, c'est peut-être parce que quand on dit déjà le donc, faut connaître la valeur du donc. Est-ce que c'est un donc qui conclut le fait de penser donc entraîne le fait d'être. C'est pas ça que veut dire.
C'est pas ça. Exactement. Ça, vous faites bien de le remarquer. Ouais. Ce n'est pas un donc avec prémisse et conclusion.
Voilà. Oui, donc c'est pas un donc qui est comme ça. C'est faut pas le prendre de cette façon-là.
Tout à fait.
Après le je pense aussi. Alors faut dire que sur cette phrase je pense donc je suis, il y a des milliers de pages qui ont été écrites.
Assurément.
Des milliers de pages. Et d'ailleurs, ce « je pense, donc je suis » a été remis un petit peu en cause, d'une certaine façon. Je pense à Rimbaud qui dit « je est un autre ». Vous voyez ?« Je est un autre ». C'est dans un de ses vers. Donc, « je est un autre ». Donc, on n'est plus sûr du tout, là, à ce moment-là, d'exister. D'exister en tant qu'unité, en tant qu'un, puisqu'on est aussi un autre. Donc, c'est... Bon, pour beaucoup, c'est pas si simple. Donc, il y a eu plein de commentaires sur ce « je pense, donc je suis ». Il faut savoir qui est ce « je », déjà. Qui est ce « je » ?
Peut-être pour nous éclairer également, un peu plus loin, justement, il essaie de définir cette certitude dont il est convaincu, en fait. Hein. Donc, on pourra peut-être y revenir après la pause.
C'était un extrait de Mozart l'Égyptien avec une transition assez osée, assez risquée de la musique orientale vers la musique occidentale. Je trouve ça assez drôle et c'est pas toujours réussi, mais Mozart l'Égyptien est un exemple de réussite de ce genre de mariage. Alors, on en était à discuter de cette phrase, effectivement, sur laquelle on a pu écrire beaucoup et faire couler beaucoup d'encre. On peut remarquer simplement qu'en matière de pensée, l'exemple qui est donné par Descartes est celui de la géométrie. Il dit, même en géométrie, finalement, les gens se trompent et font des paralogismes. Donc, par rapport à la question que vous posiez, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Je me demande si c'est pas toujours le jeu géomètre, le jeu de Platon qui disait que nul n'entre ici géomètre. Donc on voit aussi que Descartes reprend tout l'héritage de la philosophie tel qu'il a été pensé à partir de Platon. Et ce serait intéressant de voir dans quelle manière c'est un redécouvert du platonisme aussi qu'on voit là. Mais on y reviendra. Alors Sylvain, peut-être tu voulais avancer dans la lecture et dire qu'il y avait des parties qui seraient plus éclairantes.
Disons que justement par rapport à cette phrase effectivement qui peut amener plein de questions, il s'explique un petit peu sur la certitude un petit peu plus loin. Il y a un passage là donc où il va essayer de définir qu'est-ce qui fait que quelque chose peut être accepté pour certains. Donc je vais lire le passage en question. Après cela, je considérais en général ce qui est requis à une proposition pour être vraie et certaine. Car, puisque je venais d'en trouver une que je savais être telle, je pensais que je devais aussi savoir en quoi consiste cette certitude. Et ayant remarqué qu'il n'y a rien du tout en ceci, je pense donc je suis, qui m'assure que je dis la vérité, sinon que je vois très clairement que pour penser, il faut être. Je jugeais que je pouvais prendre pour règle générale que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies, mais qu'il y a seulement quelques difficultés à bien remarquer quelles sont celles que nous concevons distinctement.
D'accord. Donc Descartes nous recommande comme critère de la vérité de prendre ce qui est clair et distinct.
Voilà.
Et pour le coup,
plus avancé.
Voilà. On peut peut-être lui retourner son argument et lui dire est-ce qu'il est si simple ou si clair de voir ce qui est clair en fait. Il a l'air de dire que ce qui est clair et distinct et universel sera le même pour tous, qu'il n'y aura pas de désaccord. Et je pense qu'il a en tête les mathématiques, parce qu'effectivement, dans la recherche de la vérité, des vérités mathématiques, ce qui est clair pour l'un, en général, devient clair pour l'autre. Mais si je réfléchis à des thèmes plus généraux tels que la vie, la mort, qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que le sens de ma vie, je crois que ce qui sera clair pour l'un ne sera peut-être pas aussi clair pour l'autre, et ainsi de suite. Alors, il me semble que, par conséquent, la méthode cartésienne repose sur cette notion de clarté et d'évidence, qui marche pour les mathématiques, qui a un fort succès pour ce qu'on appelle les sciences positives, les mathématiques, physique, chimie. En revanche, quand il s'agit du sens de la vie, on est sur un terrain plus mouvant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, moi, je pense, enfin, si j'y vais, oui, je pense que c'est juste, c'est-à-dire que c'est... Mais dans Descartes, enfin, si j'ai bien compris ce texte, enfin, que je n'ai pas lu depuis longtemps, mais... Donc, il doute, il y a un doute généralisé. Il y a un doute généralisé, et peut-être y compris les mathématiques et leur vérité. Et au plus profond qu'il va, dans ce doute, au plus profond, qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve « je ». C'est mon idée. Enfin, je pense que c'est... Il trouve lui-même. Il trouve lui-même, sur lequel il ne peut pas douter. Il le trouve, et donc c'est ce « je ». Alors ce jeu qui sent, qui pense, tout ça, mais c'est ce jeu qui donc l'évidence, la clarté est là, c'est ce jeu. Il ne doute pas. Ce qu'avait fait Rimbaud, par exemple, ou plein d'autres. Donc il n'est pas schizophrène, en quelque sorte. Ce jeu, il est là, il existe, il est un. Et il le trouve à chaque fois. Alors voilà, c'est ça. Donc c'est pas, pour moi, de mon point de vue, c'est pas la géométrie, c'est pas l'évidence des mathématiques, c'est après qu'il va construire tout ça, mais c'est donc lui-même qu'il trouve.
Alors cette expression que vous avez employée, il le trouve à chaque fois, ce jeu, je trouve qu'elle est remarquable, elle peut nous aider à y voir plus clair, parce que finalement c'est ça. On a vu que chez les Grecs, il y avait les choses qui se montraient, qui nous apparaissaient, il y avait la splendeur des choses, la manifesteté de l'étang, des choses qui sont devant nous. Finalement, avec Descartes, avec ce cogito, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura de l'étang, il y aura un jeu derrière, voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la subjectivité. Et si on est habitant des temps modernes, c'est qu'on, à chaque fois qu'on voit une chose, on voit un jeu derrière. Mmh. Et je crois que là, il y a un tour de force qui est réalisé par Descartes, et on pourra plus jamais aller en arrière, quoi. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter deux mots avant qu'on termine cette
première... On peut justement conclure peut-être sur un autre passage du texte où justement il explique cette... un petit peu, je pense qu'il précise un peu cette idée du jeu justement par cette idée de substance pensante en fait.
Oui. Voilà.
Donc si on reprend un petit peu le passage. « Puis examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse, mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point, et qu'au contraire, de cela même que je pensais à douter de la vérité des autres choses, il suivait très évidemment et très certainement que j'étais, au lieu que, si j'eusse seulement cessé de penser, encore que tout le reste de ce que j'avais jamais imaginé eût été vrai, je n'avais aucune raison de croire que j'eusse été. Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser, et qui pour être n'a besoin d'aucun lieu ni ne dépend d'aucune chose matérielle. » Donc voilà le passage en question,
oui.
Où on voit qu'il essaie de préciser justement un petit peu cette idée. Voilà.
Alors on a progressé, on a fait quelques pas en avant, on a vu toute la profondeur que quelques lignes de ce discours de la méthode peuvent nous suggérer. On ne dit pas qu'on en a fait le tour, hein. Vous avez fort justement dit qu'il y avait beaucoup à dire là-dessus. Mais pour nos auditeurs, ça peut faire simplement des repères pour se dire c'est quoi Descartes ? C'est ce genre de questionnement que ça peut susciter. Et il faut pas prendre des phrases comme je suis, à la légère finalement. Elles ont une portée redoutable et peut-être dans les émissions suivantes, on va essayer d'examiner leur portée. Comme on a dit, cette question de la subjectivité, elle nous travaille, elle travaille notre époque. Se dire finalement quand je vois quelque chose, est-ce que je peux le remettre en doute, est-ce que je peux toujours le remettre sur le tapis, est-ce que je peux l'assurer, et on va essayer de progresser dans les émissions suivantes pour voir en quoi ça éclaire notre façon de penser à nous, habitants du 21e siècle. Je vous remercie et à la semaine prochaine avec Les Neveux de René, Chemin de pensée.